affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. C'est un petit garçon qui ouvre grand les yeux dans son quartier de Port-au-Prince. Il regarde vivre les adultes avec leurs masques comme on va au théâtre. Dans ce monde de promiscuité, un personnage se distingue des autres, Monsieur Gérard, solitaire et mystérieux. Une relation se noue entre l'enfant et cet ancien professeur de littérature qui reste retranché dans sa chambre à écouter Wagner et lire Baudelaire. Mais l'homme soudain ferme sa porte et l'enquête commence. L'enfant qui regarde, c'est le titre de la dernière nouvelle de Dany Laferrière de l'Académie française aux éditions Grasset. Un récit initiatique à la fois cruel et hypnotique. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Alors, dans votre livre, vous écrivez « Je remarque qu'on apprend beaucoup à regarder ». Assis sur un muret, on voit des choses que les gens tentent de dissimuler à tout prix. C'est ce que dit le petit Manuel. Vous aussi, vous étiez un enfant qui regardait ?
Je pense que tous les enfants regardent. Il y en a qui le font de façon plus, j'allais dire, précise, qui ont le regard en tunnel, et puis d'autres qui ont un regard panoramique. Mais tous les enfants, c'est un théâtre. Quand on entre dans la vie, on entre au théâtre et on est soit acteur, soit spectateur.
Alors ce petit Manuel est spectateur, peut-être d'abord dans la rue, il regarde ce qui se passe. Par exemple, le chauffeur qui essaie d'impressionner les marchands de légumes, qui organise une petite fête dans la rue improvisée. Mais il sait voir parfois la tristesse derrière une joie factice. Est-ce que finalement le fond de la vie serait mélancolique ?
Je ne sais pas. C'est un bouillon de culture. Quand on regarde ce qui se passe dans un marché, et puis surtout à Port-au-Prince, et c'est une ville surpeuplée. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de récits. Et je ne sais pas si j'étais un enfant capable de tant d'analyse pointue. Et ce que je sais, c'est que j'avais vite remarqué, n'ayant pas beaucoup de livres à la maison, que le grand livre était la rue et qu'on n'a qu'à s'asseoir et puis le livre s'ouvre et il y a plein d'histoires. Et moi, ce qui me touchait quand j'étais enfant, c'est d'imaginer toutes ces vies que je n'ai pas vues, que je n'ai même pas aperçues. Parce que pour comprendre quelque chose de ce qui se déroule dans le paysage, il faut préciser son regard, il faut choisir de suivre quelqu'un. Et ça, c'est vraiment aléatoire. J'ai choisi de suivre la femme en bleu. Et c'est aussi mystérieux que de choisir de suivre l'homme au chapeau de feutre noir. Il n'y a rien qui soit, d'après moi, plus important. Il n'y a pas de vie plus importante qu'une autre. Pas de vie plus mystérieuse qu'une autre, d'après moi.
Et est-ce que le regard va au-delà de la parole, cette parole qui construit les vies que nous voudrions présenter aux autres, et le regard serait capable de percer peut-être un être plus en profondeur ?
Je ne sais pas s'il y a une supériorité de choses. Et c'est aussi intéressant d'entendre les gens dire des choses, même pour dissimuler des actions ou des pensées. Je n'étais pas dans la question de la recherche de la vérité. Et si le livre a donné cette impression, ce n'est pas forcément l'impression que j'avais en l'écrivant. Et c'était vraiment de regarder. Et je ne jugeais pas. D'ailleurs, je trouve le mensonge plus intéressant que la vérité. Le mensonge cache quelque chose, j'essaie de découvrir. Et j'invente aussi, hein. Je veux dire, le petit garçon qui regarde, il invente des histoires. Il n'est pas totalement innocent dans ce théâtre. Il fait partie aussi. Donc, je ne cherche pas à dénuder, même si je dis les masques tombent et tout, mais je pense que c'est un cliché. Et que l'auteur a employé dans la réalité vraiment nue, Je cherche tout simplement un récit qui m'intéresse. C'est un peu comme quand on fait dérouler les récits dans un livre. On évite les longues descriptions de paysages. On va directement au dialogue et d'autres fois, on lit les descriptions de paysages. Donc, on ne sait pas pourquoi on fait ceci ou cela selon son humeur.
D'ailleurs, vous dites dans votre livre que si tout est mensonge, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnages reconstruisent leur vie. Par exemple, la maman du petit garçon doit inventer un récit pour expliquer pourquoi elle est arrivée dans ce quartier-là de façon un peu brutale. Le petit garçon lui-même imagine que ce fameux monsieur Gérard est son père. Si tout est mensonge, ça veut dire que tout est vrai.
Oui, en fait, tout est récit. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'il n'y a rien qui va nous dire ce qui est vrai. Si quelqu'un invente un récit, un mensonge, et qu'il nous entraîne dedans, donc ça devient une réalité. En fait, tout est réalité. On ne peut pas échapper de ce tissu d'histoire qui se frôle, qui se frotte et qui finit par faire jaillir des étincelles et qui sont des pointes de fiction, si l'on peut dire. Donc, naturellement, quand on regarde se dérouler ces récits-là, on cherche aussi des pointes, des éléments qui nous touchent, une émotion, une tendresse, une méchanceté, les parties intéressantes du récit.
Est-ce que la littérature est mensonge ?
Mensonge, c'est un mot un peu, j'allais dire, connoté, je n'aime pas ce genre d'expression, mais c'est un mot qui est défini par l'Église un peu trop lourdement. Et Cocteau disait que c'est un mentir vrai, c'est-à-dire c'est un mentir qui nous entraîne dans sa réalité et qui est peut-être beaucoup plus intéressant que simplement dire les choses. Je crois que c'est une illusion de croire que si on dit les choses de façon, disons, ennuyeuse, c'est qu'on dit la vérité, et si on dit les choses de façon intéressante, c'est qu'on ment. L'un ne vaut pas l'autre, c'est dans la nature des individus. Une nature ennuyeuse ne cherche pas, disons, à créer des réjouissances de l'esprit, une nature excitante, faire autrement. Et donc, il faut aller à la source directement, vous savez, à la source. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'un individu dit « je vais vous dire la vérité », c'est qu'il va vous ennuyer.
Il y a un personnage qui n'est pas ennuyeux, qui est assez fascinant, c'est ce monsieur Gérard qui vit reclus dans sa chambre. Il y a vraiment deux lieux dans ce livre. Il y a la rue, le spectacle de la rue, et ce spectacle de monsieur Gérard enfermé dans sa chambre qui n'a qu'un seul spectateur, vous le dites, c'est ce petit garçon qui vient dans cette chambre comme dans un théâtre de poche. Regardez ce qui s'y passe.
C'est vrai que c'était intéressant de faire connaître cela. Les gens qui regardent Haïti de loin, les touristes aussi qui y vont et qui sortent pour aller acheter des bimbloteries, des colifichets dans les rues, n'ont aucune idée de ce qui se passe dans une chambre à Port-au-Prince. On a l'impression que les gens sont toujours par milliers ensemble. Et là, voilà, il y a deux personnes dans la chambre, le petit garçon, l'enfant et M. Gérard. Et d'autres fois, il n'y a qu'une personne. Donc moi, enfant, je me suis toujours demandé, est-ce qu'une telle intimité était possible dans une ville surpeuplée et toujours dans la chaleur, une ville tropicale, donc tout le monde est toujours dehors, on est tous l'un sur l'autre. Et quand on est réduit à sa plus simple expression, comme les Monsieur Gérard, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est? Parce que la vie est collective. Est-ce pour cela que j'ai pensé que ce livre racontait le moment où j'ai découvert l'individu? L'individualité, l'un. Et parce qu'on est toujours dans le pluriel, dans le multiple. Et on n'a qu'à regarder les peintures haïtiennes, et la musique haïtienne, qui est une musique dansante, donc qui suggère qu'il y a une foule qui va venir danser. Les peintures, toujours sur abondance de fruits, de personnages, de marchés, et pour avoir l'impression que ça n'existe pas. En fait, ça existe. La littérature, d'ailleurs, ne donne pas cette impression de solitude possible. Et le cinéma, on a l'impression que c'est toujours une foule colorée, bigarrée, et avec des métaphores rutilantes pour les décrire. Donc j'ai voulu montrer qu'on peut avoir un individu et sa souffrance personnelle.
Alors, cet individu est un ancien enseignant. Son passé est finalement assez mystérieux et le petit garçon va enquêter pour essayer de comprendre qui était cet homme. Et c'est ce qui va provoquer sa disgrâce parce qu'il va poser trop de questions.
Oui, si l'on veut, mais en fait, c'est un rapport d'initiation d'abord entre un élève, je ne dirais pas un disciple, entre un élève et un professeur charismatique. C'est-à-dire, du moment que vous passez du silence à la question, et la leçon est terminée. Au fait, il a dit disgrâce dans le livre, il a compris qu'il était congédié, mais en fait, c'est tout simplement, la leçon est terminée, il est prêt à poser des questions. Il était le spectateur sans voix et maintenant il est un acteur avec une voix et il questionne le monde et il fait entrer par ses questions quelque chose que M. Girard voulait fuir, c'est-à-dire la touffeur sociale. Quelle est la place de l'engagement social et politique? Et il était devenu un haïtien, ce que M. Girard voulait fuir, c'est-à-dire quelqu'un qui doit prendre position par rapport aux difficultés de la société, aux gens qui souffrent, par rapport à la démocratie, par rapport, enfin, tout ce bruit confus que M. Girard entend sans arrêt, qu'il agresse, parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas beaucoup de choses dans cette histoire-là. Donc il tente, M. Girard, de sauver au moins une personne, c'est-à-dire lui-même. Et puis ce garçon qui est tombé un peu comme dans ses mains, comme un prolongement de lui-même. Et puis là maintenant, il est arrivé à la situation de poser des questions. Donc c'était terminé, la leçon était terminée. Il ne pouvait plus faire l'éducation de son individualité.
Alors il va rencontrer des personnages peut-être un peu types, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi. Il y a le professeur Désir. Et puis le docteur Hippolyte, et ça évoque peut-être un peu le petit prince qui va à la rencontre de personnages qui le déroutent, qui peuvent être peut-être même médiocres.
Oui, petit prince, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ce livre n'est pas né de cela, mais j'ai toujours eu en tête d'écrire un petit livre dans ma vie, petit, sans grand effort, qui pourrait ressembler au Vieil Homme et à la Mer, au Petit Prince. Bien sûr, je me trompe parce que c'est des œuvres qui ont demandé toute une vie sans effort. Et donc toute une vie d'effort, sans effort remarqué par la personne. Mais en fait, ces gens-là ne sont pas si typés que ça. C'est-à-dire, il vit dans un milieu, il est élève, il rencontre ses anciens professeurs pour parler d'un professeur, et puis il rencontre un autre qui était médecin. Et bien sûr, la rapidité des scènes fait penser au Petit Prince, mais je crois que dans ce genre de récit, il y a beaucoup de protagonistes, il faut les rencontrer un à un assez rapidement. Sinon, on fait de gros livres, alors ce n'était pas l'intention.
Monsieur Girard transmet énormément de choses à cet enfant. Au début, il est là pour finalement l'aider à faire des progrès en cours, mais on se rend compte que son rôle va bien au-delà. Il l'initie à la poésie, à une poésie plus large que la poésie haïtienne. Il l'initie aussi à la musique classique et notamment à Wagner. Et puis, il apprend un certain art de vivre. Que faut-il apprendre aux enfants ?
Bon, on ne peut apprendre que ce qu'on veut bien apprendre. Monsieur Girard aurait pu faire tout cela. Il faut d'abord voir qu'il a été. Ses gestes sont très, très précisément et très attentivement observés par le petit garçon qui a choisi son professeur. Ce n'est pas le maître qui choisit l'élève. Il a choisi son professeur, il voudrait être comme Monsieur Girard. Il a compris quelque chose que Monsieur Girard peut-être n'a pas compris. Si Monsieur Girard avait compris, il aurait eu la candeur de l'enfant. Et peut-être qu'il aura eu une façon différente de voir le monde, de voir la vie. Peut-être qu'il serait peut-être revenu à la vie, d'une certaine manière. Donc lui, il a choisi cette élégance-là. C'est vrai que cette petite maison, cette petite chambre au-dessus de la vieille pharmacie est une fenêtre sur le monde. Et ce petit livre tient un constat que j'ai faite en Haïti, c'est que les gens sont très cultivés, ils lisent des écrivains comme Tolstoï, Hemingway, ils regardent des tableaux dans les livres de Matisse, Turner et autres, mais on ne les utilise pas, on ne les cite pas dans les salons, pas tellement, on ne les lit pas dans les livres, on n'entend jamais parler à la radio de toute cette culture-là. Et beaucoup de citations, c'est vrai, mais c'est pas assez courant. C'est comme si c'était un autre monde. Alors là, je vois quelqu'un qui fait entrer Wagner, qui fait entrer Baudelaire, qui fait entrer d'autres, Debussy, ou bien dans sa vie réelle, quotidienne, et qui ne se sert pas de cette culture universelle, si l'on peut dire, pour faire salon. C'est sa vie, il est en lien direct avec son idéal de beauté, si l'on peut dire. Donc, c'était intéressant de montrer cela. Ça paraît simple, mais il y a très peu de livres de fiction en Haïti, et même dans la Caraïbe, où l'on voit citer Baudelaire ou Wagner sans qu'il y ait un petit couplet sur le colonialisme, ou sur des choses comme ça, ou bien encore même sur l'hitlérisme, dans le cas de Wagner, et sur le surhomme. Enfin, c'est tout simplement cela, c'est-à-dire il écoute Wagner et il lit Baudelaire, parce que ce sont des producteurs de beauté, de choses et dont il a besoin pour se tenir en vie jusqu'au point final. Donc, le professeur et l'élève sont à niveau, disons, inégal. Je crois que l'élève est plus fort. Il est capable d'apprendre, d'observer, de suivre quelqu'un qui le précède. Et le professeur n'était plus capable de s'ouvrir, de regarder autour de lui et de voir qu'il y avait tout le temps d'apprendre et que ce n'est pas du tout, disons, une sorte de ligne. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas le plus jeune et apprendre du plus vieux et la vie. C'est toujours un mouvement en circonférence avec des retours et sans cesse. On peut toujours apprendre au contraire.
Et peut-être ce qui distingue l'enfant, c'est qu'il est capable de retourner au monde alors que M. Gérard ne peut pas sortir de sa chambre.
Il est dans le tunnel, il a pris une direction sans retour. Et il est perdu dans le labyrinthe. Je crois que c'est Borges qui disait que le labyrinthe le plus inextricable, c'est la ligne droite, puisqu'on ne peut pas retourner et on est perdu si on a pris la mauvaise direction. Et il est là alors que le petit garçon, il est dans la vie, c'est-à-dire dans un monde complexe avec plein de chemins, avec plein de vies différentes. Il est le spectateur et il fait partie du spectacle aussi, parce que ce spectacle-là a besoin de spectateurs aussi attentifs, aussi vivants.
Alors je ne vais pas raconter la chute pour ne pas gâcher le plaisir des auditeurs, mais la chute est particulièrement brutale, cruelle, avec une construction en miroir entre ce qui se passe dans la rue, un bal populaire improvisé, et puis un bal funèbre dans la chambre. Comment avez-vous construit ce récit en miroir ?
Oh, ça, c'est. J'espère que je ne l'ai pas construit un miroir. J'espère que c'est quand on le lit qu'on voit cela. Parce que c'est tout à fait banal de faire des jeux techniques. Mais c'est une vraie histoire, dans le sens que ce n'est pas arrivé à la même personne. Mais ces histoires de drames comme ça, un peu violents, un peu brutales, ça arrive. J'avais lu un conte de Kipling, qui était très fort d'ailleurs. Je crois que c'est le premier livre de Kipling qui est un chef-d'œuvre absolu, qui s'appelle, je crois, Conte de la colline, Simple Conte de la colline. D'ailleurs, Borges avait dit, j'espère pouvoir faire à 70 ans ce qu'un jeune homme de 23 ans de génie a pu faire. Et dans ce conte-là, il y a quelque chose comme cela, c'est-à-dire des gens qui sont si obsédés par eux-mêmes et qui sont si monstrueusement orgueilleux qu'ils sont capables de gestes comme ça, irrévocables, hein, et qui n'ont pas la souplesse de la vie, et qui permet d'être triste une semaine, et puis de changer d'humeur, d'être moins triste la semaine suivante, ou même le jour suivant, ou même à la lumière du soleil, le matin. Et c'est pas tout le monde qui a cette souplesse-là. C'est une énorme souplesse. Et donc, M. Girard n'a pas cette souplesse-là. Et c'est courant, c'est courant. Et je crois même que on dit que ces gens-là sont des génies, on dit que ces gens-là sont extrêmement sensibles, ils ne sont pas plus sensibles que les autres. C'est simplement ils sont incapables de se mouvoir, de bouger. Quand tout le monde prend ça pas très au sérieux. Et le conte s'appelle « Élevé dans du coton ». Et c'était une dette de jeu, et puis le jeune homme s'est enfoncé pour se suicider dans la forêt. C'est, en fin de compte, c'était rien, une dette de jeu. Il s'agit de repousser la date d'expiration de la dette ou de trouver quelqu'un pour payer à votre place. C'était très courant dans les casernes, mais il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. Ils ont un idéal, dette d'honneur, et puis des choses comme ça. Ils font l'irréparable. Et c'est pas du tout parce qu'ils ont un sens moral plus grand, c'est tout simplement ils sont dans l'incapacité de bouger. La vie est mouvement, la vie est danse. Et il faut laisser passer les choses des fois, il faut les affronter, il faut se courber, il faut se lancer. Enfin, toute cette danse-là est magnifique.
Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à écrire une nouvelle, à travailler cet effet sur le lecteur de la chute, vous qui êtes attentif à l'impact de votre récit sur le lecteur.
Mais c'est pas une nouvelle, d'après moi. C'est pas parce que c'est court que c'est une nouvelle, ni c'est long que c'est un roman. Et je pense que c'est la matière est différente. Et ça peut prendre autant de temps pour faire que pour faire beaucoup plus long. Il suffit tout simplement d'allonger la sauce dans certains secteurs et de mettre des vies parallèles. Et c'est un roman bonsaï, c'est comme ça que je l'ai appelé. Parce qu'il y a des nouvelles aussi qui sont beaucoup plus longues, et trois fois plus longues, mais qui sont des nouvelles. Les Russes savent en faire. Mais il y a aussi, il y a plusieurs pointes dans ce récit qui donnent des possibilités d'augmenter. Vous savez, ces maisons que l'on fait et qu'on laisse le toit un peu libre, qui permet, quand on aura un peu d'argent, de mettre un étage au-dessus. Donc c'est un livre comme ça, on peut mettre des étages, on peut mettre des chambres à côté, on peut ouvrir le terrain, on peut en faire un roman, et facilement. Alors qu'une nouvelle doit être parfaite, c'est-à-dire on ne peut pas sortir de là, c'est un sprint. Et ça c'est un faux marathon. Et on est aussi épuisé que si on faisait le marathon, parce que ça peut prendre beaucoup de temps à faire. Il suffit de faire un gros livre et puis d'effacer tout ce qui semble de trop. Vous allez voir, ça se réduit vite. Donc, c'est un faux marathon, mais on est autant épuisé que si on avait fait un marathon. Et je pense que la chose difficile à lire, beaucoup plus qu'à faire, quand on lit ça, on a l'impression d'être en présence d'un art complexe, mais en réalité, c'est laisser aller les choses. C'est-à-dire, si on se précipite d'un quart de seconde trop vite, la chute devient quelque chose d'artificiel, devient comme une pièce rapportée. Si on est trop lent aussi, elle est trop pensée. Donc il faut qu'elle arrive naturellement. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour l'athlète, la détente naturelle du corps. Il faut qu'on ait l'impression que sur une longue durée comme sur une courte durée, la détente soit la même. Le mot détendu, à la fois, c'est un mouvement très rapide et très vif qui doit être fait de manière détendue. Les grands coureurs, les grands sprinteurs, quand on met au ralenti leur course, on les voit, ils courent exactement à la même vitesse que les autres, mais ils ont l'air détendus. On a l'impression qu'ils peuvent continuer au-delà pendant que les autres vont tomber. Et avant l'arrivée, ils vont ralentir dans leur course. Et on a l'impression que, presque au fil d'arrivée, ils allaient augmenter leur vitesse. C'est détente et détendu qui donne cette impression de naturel.
Et est-ce que c'est pour cela que la fin s'accompagne de musique et de danse? Vous avez évoqué la danse tout à l'heure dans son lien à la vie.
Oui, parce que tout est danse dans ce livre. Et c'est ça qui est lié. Je me souviens d'une phrase de Nietzsche qui disait, dans le Quai Savoir, je crois peut-être, il n'y a de Dieu que dansant. Donc pour moi, c'est ça, c'est la danse de la vie que le garçon regarde. C'est pour ça qu'il le fait et comme un dieu, comme un jeune dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de chose plus importante qu'une autre. Quand on regarde avec le regard d'un jeune dieu, d'un enfant dieu, qui donne la même valeur à tous les gestes, Et parce qu'à la fin, c'est la même chose, hein, que ça prenne du temps ou pas, on va tous mourir. Donc à ce moment-là, tout est définitif, tout est irrévocable, tout est tragique, tout est heureux, tout est vivant, tout est danse. Et la danse de la vie, on ne peut pas sortir de la salle, on ne sortira pas vivant de la salle, de la pièce. Donc à ce moment-là, tout ce que l'on fait peut être perçu à la fois comme une tragédie ou comme une comédie.
Et pour finir, Dany Laferrière, que reste-t-il en vous de l'enfant que vous étiez ?
Ah non, 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 je n'étais pas un enfant, je suis un enfant. Et je n'ai pas vu le temps passer et je suis tout content parce que j'ai défini l'enfance comme capable de bouger. D'ailleurs, une des anecdotes familiales, c'est qu'une de mes tantes m'avait mis au coin et puis je ne devais pas bouger. Et elle a eu le malheur de dire « tu ne dois pas bouger », ce que les adultes disent. Ah, j'ai dit « ah non, ça c'est impossible ». Alors, on fait toujours cette scène pour m'expliquer comment j'étais comme tout enfant, tout petit, peut-être, je ne sais pas, 3 ans. Et je n'arrêtais pas de bouger mon corps, mais tout en restant au coin, en disant « moi je bouge ». Eh bien, si l'enfance est mouvement... Et je suis un enfant, oui.
Eh bien, un grand merci, Dany Laferrière. Vous continuez de bouger et vous continuez d'écrire pour notre plus grand plaisir. Je rappelle donc que le titre de votre livre, ce roman Bonsaï, L'enfant qui regarde, aux éditions Grasset. Je signale aussi à nos auditeurs que vous venez de sortir aux éditions Point, dans la splendeur de la nuit, un récit poétique que vous avez vous-même illustré. Merci et à bientôt.
Merci. Thank you.